Le journal Josette Sédoux. Bonjour.
Bonjour. Quelles conséquences si les enfants germanophones n'apprenaient plus le français dès l'école primaire? Le Forum du bilinguisme lance, aux côtés d'autres organisations suisses, un appel à préserver l'enseignement précoce des langues nationales. On reçoit la directrice du Forum du bilinguisme dans ce journal. Un couple de retraités condamnés pour fraude électorale en marge des votes communalistes de Moutier. On revient sur cette affaire dans cette édition. Les jeunes, de plus en plus en demande d'aide psychologique, c'est le constat du service de conseil de Pro Juventute au service de pédopsychiatrie du réseau de l'Arc. Le constat est similaire. On abordera les raisons possibles de cette augmentation. Et puis météo, des nuages et quelques gouttes possibles ce soir et cette nuit. Demain, le temps sera variable avec toujours beaucoup de nuages et des averses possibles. On attend une amélioration dans l'après-midi. Il faut maintenir l'enseignement d'une deuxième langue nationale à l'école primaire. C'est l'appel lancé aujourd'hui par plusieurs organisations. Le Forum du bilinguisme, Forum Helveticum, Helvetia Latina, Cocenza Svizzera. Ces organisations sont engagées dans la promotion du plurilinguisme. On accueille en direct de notre studio de Bienne Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme. Bonsoir.
Bonsoir.
Virginie Borel, vous affirmez dans votre requête que plusieurs cantons souhaitent biffer les cours de français au primaire. D'où tenez-vous ça ?
Alors, rien de nouveau dans les cantons alémaniques. Déjà depuis 2014, de nombreux cantons reviennent politiquement avec l'idée de vouloir éviter la surcharge scolaire aux élèves et donc de vouloir supprimer, comme par hasard, le français à l'école primaire. Et cette année, donc au début de l'année, les cantons de Zurich, de Thurgovie sont revenus à la charge avec ce projet. Et là, vraiment, on s'est dit, il faut qu'on unisse nos forces pour dire clairement qu'il faut maintenant retrousser nos manches et avoir une prise de position conjointe pour vraiment défendre nos langues nationales. Je souligne ici que l'enseignement des langues à l'école, effectivement, il est laissé au libre arbitre de chaque canton. Et on appelle ça d'ailleurs l'enseignement des langues étrangères. Et nous, on avait envie de différencier entre langues nationales et langues étrangères et puis privilégier les langues nationales le plus tôt possible dans le cursus scolaire des enfants.
Pourquoi se battre pour ce maintien d'une deuxième langue au primaire concrètement ?
Alors bon, les études, on a accompagné ça d'un document de synthèse qui a été rédigé par des didacticiens qui n'arrivent pas à s'entendre pour prouver que plus on commence tôt avec l'apprentissage d'une langue, mieux c'est. Évidemment, à Bienne et dans la région, on sait que c'est le cas, mais les études ne le prouvent pas aussi clairement. Mais surtout, il en va de l'idée de cette Suisse qui, historiquement, s'est mise ensemble, aussi linguistiquement parlant, pour essayer d'aller de l'avant, et c'est aussi une forte idée de la démocratie. On a la chance d'avoir trois langues européennes majeures, l'allemand, le français, l'italien. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne les défend pas plus que ça, sachant en plus qu'elles sont économiquement extrêmement utiles, puisque la Suisse est un pays de PME qui ont en priorité besoin des langues nationales avant l'anglais. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui a fait que nous avons fait cette prise de position conjointe.
Donc selon vous, il y aurait une moins bonne cohésion nationale sans cet apprentissage des langues en primaire ?
Alors c'est un terme très politique, la cohésion nationale. Moi j'aime bien l'idée de compréhension. Est-ce qu'on arrivera encore, on continuera à se comprendre ? Parce qu'on a quand même le sentiment que le niveau de langue chute, l'intérêt pour le français et l'allemand dans toute la Suisse diminue. Peut-être aussi parce que les moyens d'enseignement sont remis en cause. On trouve qu'ils ne sont pas forcément, pas moi personnellement, mais je veux dire, ils sont de plus en plus décriés par les pédagogues. Donc on se dit, il faut vraiment faire une table rase, rediscuter de la place des langues dans notre pays, de la compréhension qu'on veut essayer d'obtenir avec nos langues nationales, et puis après des outils pédagogiques pour essayer de redonner l'envie aux jeunes de les apprendre.
Et avec l'appel que vous avez lancé en collaboration avec plusieurs organismes, donc, dont vous, le Forum du bilinguisme, le Forum Helveticum, Helvetia Latina et Cocenza Svizzera, qu'est-ce que vous attendez concrètement ?
Alors, dans un premier temps, c'est un appel aux autorités politiques, parce que finalement, on n'a jamais fait ça, se mettre ensemble pour dire simplement ce qui est, défendons ces langues nationales, pour aussi une démocratie plus exprimée. Donc, la prise de position s'adresse avant tout au Conseil fédéral, aux cantons concernés, mais évidemment aussi aux organisations politiques. Et c'était l'idée, véritablement, qu'il y ait un appel là-dessus l'année prochaine pour les 30 ans de la Fondation Forum du Bilinguisme, eh bien, on mettra sur pied une grande manifestation qui thématisera tout cela et on mettra tous les gens ensemble pour essayer de dégager des pistes vraiment qui seront utiles, évidemment aux enfants qui auront, nous l'espérons à l'avenir, vraiment plaisir à apprendre les langues nationales, mais aussi au niveau politique et au niveau des pédagogues.
Virginie Borel, on rappelle que vous êtes la directrice du Forum du Bilinguisme. Vous étiez en direct avec nous à la suite de votre appel à protéger l'enseignement d'une deuxième langue nationale dans les écoles primaires. Merci d'avoir été avec nous et belle soirée à vous.
Belle soirée, merci.
Si vous passez sur la 16, vous devrez peut-être ralentir devant l'entrée du tunnel 3, donc en direction du Jura bernois depuis Bienne. L'Office fédéral des routes a annoncé cet après-midi avoir installé un pont provisoire en direction de Boncourt. Il restera en place jusqu'à fin octobre 2025. Selon le communiqué, cette installation permettra la création d'un passage sous la 16 dédié à la mobilité douce. Ils annoncent des perturbations à prévoir lors des heures de pointe, mais n'ont pas répondu à notre appel pour plus de renseignements. Nouvelle condamnation dans le cadre de la série de procès pour fraude électorale en marge des votes communalistes de Moutier. Ce jeudi, c'est un couple de retraités qui comparaissait devant le juge Jocelyn Richard. Mais il n'y a finalement pas eu de débat, Olivier Zano.
Pas de débat sur le fond, en tout cas. Le couple dont l'opinion politique n'a pas été dévoilée avait été condamné pour fraude électorale, mais par voie d'ordonnance pénale. Le ministère public lui reprochait d'avoir participé au vote communaliste de 2017 et de 2021 sans y avoir droit, puisqu'il vivait à Rebevelier. C'est ce que relève en tout cas l'acte d'accusation. Il s'appuie entre autres sur la consommation d'électricité, l'adresse de facturation ou encore l'immatriculation du véhicule des deux prévenus. Mais ces derniers ont contesté cette version, assurant habiter Moutier depuis 33 ans, contesté donc l'ordonnance pénale, d'où l'organisation d'une audience ce jeudi. Le juge a averti les septuagénaires en ouverture des débats, soit ils retiraient leur opposition et s'acquittaient de la sanction prévue. On parle de 600 francs par personne, les frais de procédure et encore 3000 francs chacun, les montants assortis d'un sursis de 2 ans. Soit ils persistaient et à tout ça pouvait encore s'ajouter 1200 francs en cas de condamnation pour la tenue de cette audience. Après réflexion, décision a été prise de se rétracter, ce qui a mis fin au débat avant même que celui-ci ne commence véritablement. Les deux prévenus ont toutefois partagé leur incompréhension. En somme, on est un peu des pigeons, c'est plein l'accusé. Propos rapportés sur ajour.ch.
Et avec cette double condamnation, 6 personnes ont désormais été sanctionnées pour fraude électorale dans le cadre des votes communalistes de Moutier. Du Grand Val au Petit Val, c'est le titre du nouveau film signé par le réalisateur de Perfit Francis Angie et le cinéaste animalier prévotois Jonathan Contin. Ce long métrage, entièrement tourné entre les montagnes du Rémeux, du Grétry et ses environs, vise à mettre en lumière la richesse de la biodiversité régionale à travers des images de la faune et de la flore locale. Pour ce faire, décision a été prise de ne pas raconter une histoire de manière scénarisée. Francis Angie nous explique les raisons de ce parti pris.
C'était très difficile de faire une trame de fond parce que bien souvent dans les films naturalistes, il y a une histoire, il y a un fil rouge. Et donc 90% des animaux sont des animaux imprégnés par l'homme, quoi, et qui sont mis en scène. Tandis que nous, toutes les images qui ont été réalisées, c'est sur le vif, dans la nature. On a quelques, ce qu'on appelle des images annexes qui ont été données par certains collègues de la région. Ça travaille de partage, quoi, ça travaille de partage. Il n'y a pas de fil d'Ariane, mais on essaye de faire un film didactique qui soit rédactionnel et qui soit pour partager dans les écoles, dans les homes, dans les gens qui sont de la région, qui apprécient la nature.
Pour la musique du film, les réalisateurs ont fait appel à Alain Tissot. Le musicien prévotois explique avoir été tout de suite emballé par le projet et également profondément touché à la découverte des premières images. Si ces dernières véhiculent déjà à elles seules beaucoup d'émotions, quelle place la musique va-t-elle occuper ? On écoute la réponse d'Alain Tissot.
C'est une très très bonne question. Moi, je suis plutôt minimaliste, en fait. Je suis plutôt de ceux qui font quand il y a à faire. Quand il faut faire, je ne parle pas s'il n'y a rien à dire. Et quelque part, le silence fait partie de la musique. Donc, dans mon travail, il y aura du silence. C'est une évidence. Et je vais le signer. Hein. Il peut y avoir des plages de peut-être 30 secondes, une minute de silence. Si c'est ça qui est le plus fort, ça devient un médium artistique, ça devient de la musique. Donc, musique, ça ne veut pas dire qu'il y aura du son tout le temps. Ça veut dire qu'il y a le souci de faire en sorte qu'on soit en immersion pendant une heure dix, et qu'on y soit bien, et qu'on puisse recevoir les bonnes émotions, enfin, celles que nous, on va penser être les bonnes, pour moi, c'est ça. Mais si ça passe par le silence, ce sera du silence, et j'espère qu'il n'y aura pas que du silence. Non, mais voilà, en tout cas, c'est clair qu'il faut être juste avec ça. Il ne faut pas que ce soit redondant. Ce n'est pas la peine de créer un drame sur une image qui a déjà du drame, et de le surligner au stabilobos.
Et au total, plus de 3 ans d'observation et de tournage ont été nécessaires à la réalisation du film. La sortie est prévue pour la fin du mois d'octobre. Les jeunes demandent de plus en plus d'aide psychologique. Le service Conseil pour les jeunes et enfants de Pro Juventute a enregistré une augmentation de 13% des demandes au numéro de soutien 147 en 2024. Au service de pédopsychiatrie du réseau de l'Arc, le constat est similaire. On écoute les explications de Colline Grasset.
Le service de conseil pour les jeunes de Pro Juventute a reçu en moyenne 13 appels par jour pour des idées suicidaires en 2024 contre 9 l'année précédente. Ils l'ont annoncé dans un communiqué. Selon Elodie Sierrault, responsable chez Pro Juventute pour la région suisse romande, cette augmentation s'explique entre autres par un système de soins saturé.
Plus en plus d'adolescents nous contactent parce qu'ils attendent une place en thérapie et font face à des délais très longs d'attente. Ils doivent trouver une solution en attendant. On voit donc que le système de soins il est saturé. Donc c'est important d'une part de soutenir des points de contact comme le 147 qui sont en première ligne, mais aussi de soutenir la chaîne de soins pour qu'elle puisse absorber toutes ces demandes qui augmentent.
Le service de pédopsychiatrie du réseau de l'Arc constate également une augmentation des demandes pour des idées suicidaires, des troubles du comportement ou des refus scolaires anxieux entre autres motifs. Sherifa Zemzami, médecin psychiatre et responsable du secteur ambulatoire de pédopsychiatrie pour le réseau de l'Arc, explique cette augmentation par une exposition accrue à des informations anxiogènes et une incertitude face à l'avenir. Des tensions familiales ou des nouvelles formes de violence, comme le cyberharcèlement, pourraient aussi avoir un rôle à jouer. Pour faire face à cette situation qu'elle qualifie d'urgence de santé publique, la doctoresse insiste sur la nécessité de se mobiliser collectivement, de déstigmatiser les troubles psychiques et d'impliquer des jeunes dans la conception des dispositifs qui leur sont destinés.
Le réseau de l'Arc est également en train de développer une offre multisite de consultation en pédopsychiatrie. Le centre de Moutier est déjà fonctionnel et des activités de périnatalité sont en cours de développement à Saint-Imier.
18h13 sur RJB.
RJB Sport.
Le FC Bienne est à 2 jours d'une rencontre historique. Il dispute samedi à 20h à la Tissot Arena sa demi-finale de Coupe de Suisse contre Young Boys. Les footballeurs célandais tenteront d'imiter leurs illustres prédécesseurs de 1961. C'est en effet cette année-là que le FCB a disputé sa seule finale de Coupe de Suisse. Elle fut perdue contre La Chaux-de-Fonds. Et plus récemment, Bienne avait perdu une demi-finale à Sion en 2011. Laurent Valtert était le gardien de l'équipe célandaise. Il soulève quelques ingrédients qui avait porté sa formation.
Il faut un petit peu de folie, il faut croire en l'exploit, et puis ce qu'on oublie souvent, on parle souvent que de la coupe et puis de sa magie, mais ce qu'il faut surtout, c'est un bon effectif et des bons joueurs, parce que à cette époque-là, l'effectif de Philippe Perret, il était de qualité, et ça, il faut pas l'oublier. Ça veut dire que ces années Philippe Perret 2010, 2011, 2012, il y a quand même passablement de joueurs qui ont par la suite montré des qualités intéressantes et qui ont pu jouer en Super League.
Le FC Bienne défiera donc le grand Young Boys samedi à 20h en demi-finale de la Coupe de Suisse. La rencontre se jouera à guichet fermé à la Tissot Arena. On en reparlera demain dans la matinale avec le président du club Dietmar Fess. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous.
RJB Sport.